la femme au parfum. Il y en a plusieurs dans la Bible. Les femmes ont une grande place dans les évangiles et dans toute la Bible. On m'a dit parfois, les femmes n'ont pas de place dans l'Église. Regardez la Bible qui commence avec une femme qui s'appelle Madame Ève. Et dans toute l'histoire, la femme, l'homme sont à égalité. Pas semblables, mais à égalité. Nous allons lire ensemble l'évangile de Matthieu, chapitre 26, qui se situe 2 jours avant Pâques. La Pâque où devait être donné le Christ pour notre salut. On s'apprêtait à Pâques à égorger des centaines et des centaines d'agneaux. Car la Pâque représentait la délivrance. Et en souvenir de la délivrance, on égorgeait des agneaux depuis la sortie d'Égypte. Et on mangeait l'agneau en famille. En prévision de la grande délivrance que Jésus-Christ est venu nous donner. Car c'est lui le vrai agneau. Je lis avec vous Matthieu 26, verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Donc je vous le dis, c'est 2 jours avant Pâques. Jérusalem, à cette époque, n'a que 30 000 habitants. Ce n'est pas une très grande ville. C'est encore un village, non ? Mais à Pâques, il arrive 100 000, pas touristes, il n'y avait pas de touristes à l'époque, 12 000 pèlerins juifs qui viennent fêter Pâques à Jérusalem. Donc la police est sur les dents et surtout on se dit il faut arrêter Jésus avant Pâques pour ne pas qu'il y ait de remue-ménage, pour ne pas que les bonnets rouges défilent dans les rues. Et Jésus, en ces temps-là, a été invité à Béthanie chez un monsieur qui s'appelle Simon le lépreux. Je me suis posé des questions sur Simon le lépreux. Est-il un lépreux qui a été guéri par Jésus ? Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux ? Il y en a un qui est revenu, qui s'est converti à Jésus. Un qui est revenu guéri et qui a compris d'où venait sa guérison. Est-ce lui ? Je ne sais pas. Je peux penser qu'il s'agit d'un lépreux guéri. Et s'il est guéri, c'était certainement par Jésus. L'Évangile dit, il était à table, Jésus. Ça veut dire que Jésus a été invité à manger. Quelle belle soirée ça devait être, non ? Quelle belle idée d'inviter Jésus à manger. Quelle histoire il racontait. Que de questions à lui poser. Comme c'était agréable d'entendre sa parole, toujours comme il fallait. Jamais pour heurter, chagriner, endormir, attrister. Et Simon, je pense qu'il a bien fait en reconnaissance de sa guérison. Il a bien fait de faire un repas pour rassembler les disciples. Parce que, ben oui, c'était comme ça. Quand on invitait Jésus, il y avait toujours 12 bonhommes qui suivaient. Et c'était les apôtres. Mais le plus beau geste de cette soirée a été accompli par une femme. Une femme qui a fait quelque chose qui est étonnant dans la Bible. Elle est entrée dans la maison avec un vase de marbre dans les bras. Et ce vase d'albâtre contenait du parfum de nard pur de grand prix. C'est un parfum qui venait de l'Himalaya. Vous rendez-vous compte, à cette époque, faire venir un parfum d'Asie, le prix que cela pouvait représenter. Et cette femme, quand elle a vu Jésus, elle a cassé le vase, dit l'évangile de Marc. Elle a brisé le vase et elle a répandu le parfum sur la tête de Jésus. Donc ça devait couler sur son visage, sur ses vêtements, ça devait parfumer toute la pièce où l'on mangeait, peut-être entre la poire et le fromage, on mangeait et le parfum se répandait partout. Les apôtres sont indignés. Le premier fut Judas. Comment on aurait pu vendre ce parfum, pensait-il, 300 deniers. Et tout le monde a été gagné par ce murmure. Et tout le monde a commencé à dire, bah oui, c'est une honte, c'est une pure perte. Vous connaissez la valeur de 300 deniers ? Judas avait les cours de la bourse en tête. Hein. 300 deniers, le denier, c'était le salaire journalier d'un ouvrier agricole. Et 300 deniers, ça représente environ 12 000 euros. Mesdames, vous avez ce parfum chez vous de 12 000 euros sur votre table de votre salle de bain, 12 000 euros. Et vous ne pensez pas qu'il y a de quoi s'indigner de voir 12 000 euros qui coulent là sur la barbe de Jésus et sur ses vêtements et jusque sur le sol qui sont gaspillés, perdus. Indignation des apôtres. C'est une perte inutile. C'est un geste absurde. Mais ont-ils compris, les apôtres, que lui, le Seigneur, nous a tout donné et qu'il s'est donné lui-même. Et c'est beaucoup plus qu'un vase de parfum de 12 000 euros. Il y a deux formes d'amour. Il y a l'amour qui donne, et quand on est fiancé, on fait des cadeaux à sa fiancée. On donne. Et il y a l'amour qui se donne. Et Dieu, lui, il nous a tout donné. Tout est à vous, dit la Bible, et vous êtes au Christ. Mais en plus de cela, Dieu s'est donné lui-même. Il est sorti de lui-même, il est sorti de sa cachette, de son silence, de sa grandeur, pour s'humilier jusqu'à terre et se dire « je suis un ver et non un homme ». Quelle indignation! Les anges dans le ciel, quand ils ont vu ce geste, parce que les anges regardent ce qui se fait sur la terre, quand ils ont vu ce geste, les anges n'ont pas dit en eux-mêmes « à quoi bon cette perte ?» Donner Jésus, ce n'est pas une perte à des gens qui ne comprennent rien, à des gens qui ne réalisent pas la grandeur du cadeau que Dieu leur fait et qui piétinent et qui s'indignent devant Jésus. Les anges auraient pu dire la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire, cette indignation des apôtres ? Ça veut dire que Jésus ne méritait pas ça. Il ne méritait pas un si grand parfum. Regardez comme c'est terrible de penser que les pauvres le méritaient, mais pas Jésus. La Bible dit, c'est Dieu qui parle dans le prophète Jérémie, il dit, est-ce que j'ai besoin du parfum de la région de Séba ? Est-ce que j'ai besoin, moi, de manger ? Est-ce que j'ai besoin de parfum ? Non. Dieu a tout à lui. Mais cette femme a compris qu'il fallait faire ce geste qui représente beaucoup de choses. Si même tout est à lui, nous lui donnons quand même. Indignation des apôtres. Ça me fait penser au murmure du peuple d'Israël dans le désert. Dieu leur donnait tout ce qu'il fallait pour traverser un désert quand même pas très facile, avec des scorpions et des serpents, mais ils avaient la protection, ils avaient l'ange de Dieu, ils avaient la parole de Dieu, ils avaient le matin leur petit déjeuner pour toute la journée, et ils avaient l'eau qui les suivait, ils avaient tout pour un voyage quand même particulier, et ils murmuraient contre Dieu, jamais contents. Les apôtres sont indignés. Oh, 12 000 euros. Ça vous ferait plaisir que votre mari verse comme ça 12 000 euros sur votre tête ? Chérie, tu fais quand même un peu d'excès, non ? Pourtant, les apôtres, ils avaient tout laissé. Ils avaient tout donné. Et après, le jeune homme riche, là, qui n'a pas voulu lâcher un centime, ils ont dit, mais Seigneur, mais nous avons tout laissé. Nous avons tout donné. Oui, les apôtres, c'est ça. Ils ont des élans et parfois de l'incrédulité. Ils ont des coups de cœur, Et puis des moments où ils sont dégonflés, comme nous. On dit oui Seigneur, et puis après on s'indigne, on dit oh à quoi ça sert? Est-ce que ça a un sens? Regardez comme nous sommes étranges devant le Seigneur. Nous sommes capables de piloter des satellites depuis la Terre, qui prennent en photo tout ce qui se passe sur la Terre. Et devant Dieu et devant Jésus, nous sommes aveugles et nous sommes sourds. Regardez comme nous sommes étranges. Avec les choses matérielles, nous faisons des prodiges. Et devant l'essentiel de la vie, la relation avec Jésus, nous sommes incapables, comme les apôtres. Comme si une puissance nous tenait sous un joug d'autorité. Jésus disait que, la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. La Bible dit que Satan nous a aveuglé l'intelligence. On fait de la technologie, mais sur son âme, sur le jugement dernier, sur le retour du Christ, sur la rencontre avec le Christ, nous sommes des aveugles. Mais Jésus est venu nous dire, je suis venu afin de proclamer aux aveugles, vous allez voir à nouveau, je vais vous redonner la vue. Les yeux du cœur ont besoin de s'ouvrir, non? Nous sommes aveugles, mes amis, au niveau du cœur. La Bible dit que sans Dieu, nos pensées sont pleines de vanité. C'est-à-dire de vent, de poussière, de choses dérisoires, inutiles. Et nous sommes aveugles sur la plus grande chose, la chose la plus importante au monde, rencontrer Dieu. Vous ne pensez pas que c'est important? Rencontrer le plus grand de l'univers, celui qui n'a jamais eu aucun commencement et n'aura jamais de fin, celui par lequel nous vivons et nous respirons, cette rencontre, eh bien, nous ne la voyons pas. Regardez, comme les 9 lépreux, guéris instantanément de la lèpre, cette lèpre qui farine le nez, les oreilles, les mains, les pieds, cette lèpre qui transforme le corps en un tas de farine, eh bien, guéris instantanément, mais n'ont pas vu que ça venait de Jésus, puis sont partis, sans s'ouvrir à l'amour du Christ qui les récupérait. Un seul est revenu, peut-être, je le dis bien, peut-être, Simon le lépreux. Comme nous sommes durs avec Dieu. Tôt, tenez, si on faisait un téléthon pour Dieu. C'est bientôt le téléthon. C'est important quand même. C'est important aussi que nous donnions quelque chose pour la recherche et continuer, parce que des maladies dévorent certaines personnes, bien sûr. Mais si on faisait un téléthon pour Dieu, combien il y aurait dans la quête? Savez-vous qu'un jour, Dieu a dit à son peuple d'Israël, « Donnez-moi mon salaire !» Ils ont donné 30 pièces d'argent. C'est exactement ce qu'on a donné pour vendre Jésus. 30 pièces d'argent. C'est pas cher payé. Hein. Avec Dieu, nous sommes aveugles. Nous ne voyons pas l'essentiel, l'important de vivre avec lui. La femme, elle a donné, elle. Elle a donné sans compter. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Son plus grand trésor, 12 000 euros de parfum, c'était son plus grand trésor. Et quand elle l'a donné, ce parfum, il était irrécupérable. Quand on se parfume, on ne peut pas récupérer. Ça s'évapore, ça part. Et elle a brisé le vase. Ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais s'en resservir. Le vase, ting, il est cassé. On n'a jamais compris pourquoi. Elle a cassé le vase au lieu de l'ouvrir. Ils étaient scellés, c'est vrai, avec de la cire. Pourquoi elle l'a cassé? Eh bien, dans le geste de cette femme, je vois la foi. Et je me dis, la foi, oui, c'est un geste radical. Nous donnons au Seigneur la totalité de notre vie. Nous lui donnons notre temps pour ce temps-là et pour l'éternité. C'est ça la foi. Ce n'est pas aller assister à un concert de musique religieuse. Ce n'est pas de lire un poème sur la foi. Ce n'est pas d'aller aux enterrements et aux mariages. La foi, c'est dire, je veux te donner ma vie de toutes mes forces, de toute ma pensée, de tout mon cœur et pour toujours. Amen. C'est ça la foi. Que tu sois, Seigneur, le chef suprême, c'est-à-dire le chef de tout, le chef de mes soucis, de mes déficiences, de mes tristesses, de ma faiblesse quand je serai très vieux ou très vieille. Sois le chef toujours. Tiens-moi quand tout m'abandonnera. La foi, c'est un geste radical. Seigneur, à toi mon cœur. C'est ce qu'on donne le moins, c'est le cœur. On donne parfois des pièces, mais pas le cœur. Ça veut dire, le cœur, ça veut dire toute la vie. Et la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, également un geste radical. Dieu nous donne tout. Tout est à vous. Toute la création. Toute l'éternité. Le royaume d'en haut, la ville céleste, cette Jérusalem d'en haut construite avant que le monde soit fait, qui accueillera tous ceux qui auront mis leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Tout est à nous, l'éternité, l'immortalité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ce vase brisé pour moi, ce vase qu'elle a cassé radicalement, là, je pense qu'il représente le corps brisé de Jésus. Le corps brisé de Jésus. Jésus nous donne tout. Et le vase ne pouvait plus te récupérer. Je crois que le vase de Jésus, son corps brisé, sera brisé éternellement. Il portera éternellement notre humanité. Jésus ne reviendra pas en arrière. Il y a eu un changement dans l'histoire de Jésus. Avant, il était esprit, maintenant il est corps avec des os et des muscles et des mains et une tête et des yeux. Il y a eu un changement dans l'histoire de Jésus. Il était Dieu invisible, il est devenu visible. Touchez-moi, dit-il, j'ai des os. Mets ta main dans mon côté, dit-il à Thomas. Le Christ brisé restera ainsi éternellement un être humain. Mais que fait cette femme en cassant le vase, en répandant le parfum et peut-être un litre de parfum sur la tête de Jésus? Combien mettez-vous de parfum sur votre tête le matin? Moi, j'en mets 3 gouttes. Et vous? Il faut économiser. Elle a fait, sans le savoir, la représentation de la mort de Jésus. Elle a fait, sans le savoir, l'embaumement de la mort de Jésus. Alors les apôtres sont indignés, je le répète, et Jésus va leur dire, mais vous avez toujours les pauvres avec vous, parce qu'ils se disent, on aurait pu le donner aux pauvres. C'est du gaspillage pour Jésus. Jésus ne mérite pas ça. C'est pour les pauvres. Et Jésus dit, mais les pauvres sont toujours avec vous. Quelqu'un va me dire, il y a de l'indifférence chez Jésus. Jésus est indifférent à la misère des pauvres, à la misère des enfants malheureux, à la misère de ceux qui n'ont pas à manger. Mais Jésus, n'oubliez pas, a été un pauvre, n'a pas fait d'études. Il est né dans une mangeoire, dans une étable. Il vient d'un petit village mal famé, mal coté. Jésus avait des parents très pauvres. Il a été mis à mort à côté de pauvres gens. Il a été crucifié parmi les larrons, les malfaiteurs, c'est un rejeté, c'est un pauvre. C'est ce que c'est que la pauvreté. Mais que veut dire Jésus? Vous avez toujours des pauvres avec vous, si vous voulez, et c'est bien de vous en occuper. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Et dans quelques heures, ça ne va pas durer, hein, dans 2 jours, je ne serai plus avec vous. Je serai mort. Et c'est le moment pour vous de vous situer par rapport à moi. C'est le moment de vous déterminer par rapport à moi. Et le geste de la femme, c'est un geste de foi en disant, Seigneur, tu es mon Seigneur et je vais te mettre sur ta tête ce parfum. Chez les Israélites de l'époque, dans tout le Proche-Orient, dans toute cette région importante, mettre du parfum sur la tête de quelqu'un, ça avait un sens, même plusieurs sens. Si vous étiez dans ce pays-là, et si vous m'invitiez ce soir, vous devriez me mettre du parfum sur ma tête et vous devriez me laver les pieds, d'accord? C'était comme ça, c'était une coutume. C'était un signe d'accueil, on mettait le parfum en signe d'accueil. Et puis également, on mettait du parfum sur les rois. On mettait une onction, on frottait leur tête, on versait sur leur tête du parfum qui coulait sur leur barbe. À l'époque, les hommes étaient tous barbus. C'était une marque qu'on reconnaissait la royauté de David et des autres. Et puis, on mettait aussi du parfum, troisièmement, on mettait du parfum sur les morts, sur le corps de quelqu'un que l'on avait aimé et que l'on voulait honorer. Avant de le mettre dans le tombeau, on l'entourait de parfums sous forme de plantes. En mettant du parfum, la femme, elle veut dire, eh bien, je reconnais que le Christ est roi, il est donc l'envoyé de Dieu, et il va passer par la mort, parce que je mets le parfum de sa sépulture, je mets le parfum de sa mise au tombeau, je mets le parfum de son embaumement. Et ce geste-là, le vase cassé, le vase brisé, eh bien, représente, parce que le vase est cassé, il est ouvert, et le parfum, il est parti, ça peut représenter le tombeau vide et la résurrection de Jésus. Elle a fait quelque chose sans le savoir. Elle a fait un geste symbolique, prophétique, qui annonce quelque chose d'important. Étrange, hein ? Mais, mes amis, chaque fois que nous écoutons l'Évangile, chaque fois que nous lisons la Bible, et quand nous faisons la prière, et quand nous accueillons le Christ dans nos jours difficiles, quand nous lui disons « Seigneur, viens chez moi », nous faisons des gestes très importants. Ce n'est pas du gaspillage inutile, ce n'est pas du temps perdu. Combien de fois on m'a dit « Mais vous perdez votre temps à prier, vous perdez votre temps à lire la Bible, mais ça ne se fait plus, ce n'est plus la mode. » Ce n'est pas du gaspillage inutile, ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas du superflu, à côté des misères réelles du monde. Quand nous lisons la Bible, nous touchons Dieu, nous écoutons Dieu. Quand nous prions, nous touchons le cœur d'un Père qui nous aime dans le ciel. Parce qu'il faut une source pour donner à boire aux pauvres qui ont besoin. Et la source pour leur donner à boire, c'est le Christ. Si je ne suis pas moi-même rempli, si je ne reçois pas moi-même, je n'aurai pas suffisamment à leur donner. Le Christ est la source. Donc nos gestes de foi, nos prières, notre écoute nous mettent en relation avec le Christ ressuscité. Amen. Quand la femme a mis le parfum, je crois qu'elle l'a fait certainement dans un geste de reconnaissance, d'amour et de foi. Elle ne savait pas tout ce que ça représentait pour le Christ et pour les apôtres. Elle s'était mise en relation avec le Seigneur crucifié et ressuscité. Elle ne savait pas qu'en faisant cela, elle embaumait Jésus pour sa sépulture. Elle mettait le parfum qui allait l'accompagner, parce que c'est un parfum de grand prix, en général, ça reste longtemps, non ? Elle a mis le parfum qui allait l'accompagner dans la douleur de la flagellation, quand il recevra des soufflets. Vous savez qu'on lui a bandé les yeux et qu'on l'a tapé avec des coups de poing en lui disant « Devine qui t'a fait ça ! Devine qui t'a fait ça !» Et sur lui, il y avait un parfum, le parfum de cette femme qui déjà était là pour l'embaumement du Christ dans sa tombe. Et le parfum, il va toucher tout le monde. Les apôtres vont être imprégnés de ce parfum. Judas Iscariote, l'avare, va être imprégné de ce parfum. Thomas, l'incrédule, et Pierre, le volontaire. Tout le monde va ressortir de cette maison de Simon le lépreux avec le parfum sur eux, dans leurs vêtements, leurs cheveux, leurs barbes. Et Jésus a dit, cette histoire, il faut la prêcher dans le monde entier. C'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Amen. Partout, il faut la prêcher, cette histoire. Parce que cette histoire, eh bien, elle représente une femme qui a donné un message aux apôtres. Et à moi-même et à vous aussi. Ce message, le voici. Mon frère, ma sœur, par ta foi simple, peut-être que tu te dis sans importance, qu'est-ce que ça peut faire dans le monde en désordre d'aujourd'hui, dans ce monde en déclin, qu'est-ce que ma foi peut faire, qu'est-ce que ma prière peut faire. Eh bien, ta prière, elle touche le cœur de Dieu et elle répand une lumière autour de toi. Parce que ce geste de cette femme, il brille encore dans le monde aujourd'hui. Notre foi touche Dieu et touche les autres. Notre prière touche Dieu et éclaire les autres. Notre prière nous met en contact avec le Christ crucifié et ressuscité. Amen. Que Dieu vous aide. Ayez la foi. Ayez foi en Dieu, dit Jésus. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé dans la maison du Père, je reviendrai vous chercher et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Toi, Simon le lépreux, et toi, la femme au parfum, et toi, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simon, Thaddée, vous serez avec moi. Et nous, amen. Si nous croyons dans le Fils, nous avons la vie éternelle. Je vous invite à incliner vos têtes, à prier le Seigneur avec moi. Nous allons lui répandre sur son cœur, répandre devant lui, car la prière a souvent été comparée à de l'eau qui se répand. On va répandre devant lui notre prière. Nos chagrins et nos soucis pour la santé qui va peut-être mal. Répandre aussi nos fautes, nos erreurs, nos manques de discernement, nos péchés. On va répandre aussi le souci de l'avenir. Que deviendront nos enfants? Qu'allons-nous devenir? Ce problème vital important du pardon de nos offenses, sans lequel nous ne franchirons pas les portes de la nouvelle Jérusalem qui est dans les cieux, dans le paradis de Dieu. On va répandre tout cela devant Dieu, parce que Dieu entend. Il est attentif à la prière de ses enfants. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il entend les cris des petits du corbeau et il nourrit les petits du corbeau. Cela pour nous dire, j'entends vos cris et je veux vous nourrir, vous donner ce que vous avez besoin. Nous touchons le Seigneur ensemble. Amen. Nous répandons notre parfum, notre foi, notre confiance, notre prière. Nous voici, Seigneur, comme cette femme, un jour de repas qui est venue vers toi pour mettre ce parfum sur ta tête. Seigneur, elle a fait ce geste de foi magnifique qui doit servir à tous les hommes, toutes les femmes dans le monde pour dire ainsi à la vraie relation, la relation avec Christ, avec Dieu, la foi, l'amour, la radicalité, le don total. Seigneur, entends notre prière, reçois-nous aujourd'hui, guéris nos cœurs du péché, du mal, délivre-nous des angoisses que le monde connaît aujourd'hui particulièrement, reste avec nous dans nos chemins difficiles et tortueux, reste à nos côtés quand plus rien ne nous tient, garde-nous du mal, Seigneur, nous te faisons confiance. À toi nos cœurs et nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Restons devant le Seigneur quelques instants. Pensons à lui. Je pense que pendant que la femme mettait son parfum, le repas s'est arrêté. On ne mangeait plus. Je pense qu'il y a eu un silence. Et on a regardé cette femme peut-être pendant quelques secondes, quelques minutes, qui mettait et qui remettait, et encore. Et Jésus ne disait rien non plus. Mais il recevait et il donnait aussi quelque chose. On va rester devant le Seigneur et pendant quelques secondes, on va lui dire, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes chez moi. J'ai besoin que tu viennes dans mon existence. J'ai besoin que tu poses ta main, la main qui se posait sur les lépreux hier, sur les aveugles, dans les oreilles des sourds, sur la langue du muet. Que cette main vienne aussi sur moi, parce que j'ai besoin de toi. Alors on pourrait lui dire, regardez cette femme qui bouleverse le repas, qui gêne tout, qui dérange, qui s'est montré, qui s'est manifesté. Comment lui dire ? Tout se fait dans le cœur. Mais je peux vous aider, un peu, en priant pour vous. Et si vous voulez, eh bien faites ce geste de vous lever. Ne donnez pas votre parfum. L'essentiel, c'est de donner votre cœur. Mais vous pouvez vous lever, je vais prier. Je vous regarde une seconde et je prie pour vous. Et le Seigneur vous regarde toujours, toute l'éternité. Nous nous levons si vous voulez et je prie pour vous. Tel que nous sommes, Seigneur, sans rien à nous, sinon l'amour dont tu nous as aimés depuis la fondation du monde, tel que nous sommes avec nos limites, notre faillibilité, avec tout ce qui fait la fragilité, la faiblesse, le questionnement éternel de notre vie, nous venons mettre nos mains dans tes mains, Seigneur. Nous voulons reposer notre cœur contre ton cœur. Nous voulons que tu nous communiques cette force qui sortait de toi et qui était une force d'amour et de rétablissement, de résurrection. Bénis mes amis qui se sont levés à leur place. Ôte les nuages qui sont sur leur tête. Ôte aussi le péché qui nous enveloppe et qui nous enveloppe si facilement pour nous conduire là où l'on ne veut pas aller. Protège et garde ceux pour qui ils viennent te prier. Bénis-les dans leurs demandes et accompagne-les dans la suite des jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.